les rencontres politiques en Ariège, questions locales, territoriales, régionales, interrégionales ou même mondiales. C'est à retrouver en écoute sur Radio Qui Pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique. Celui qui ne veut pas lutter a déjà perdu. L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires elle-même. Alors, on en discute pour mieux agir. Sur Radio Kikiki Pique. Chaque année, au Centre culturel L'Estive de Foix, l'association Regard Nomade organise le festival de films documentaires Résistance. Pour l'édition 2024, une des thématiques choisies cette année s'intitulait « L'addiction, s'il vous plaît ». À cette occasion, le jeudi 11 juillet, était organisé un débat intitulé « Addiction, tous concernés ?» Point d'interrogation. Voici la présentation de ce débat. Qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce qui fait de nous des addicts? Deux petits points. Nos consommations sur ordonnance, légales ou prohibées. Nos comportements individuels, nos histoires familiales, notre environnement social, professionnel. Virginie Despentes crie que le capitalisme est une drogue dure. Notre société nous préfère-t-elle dépendants, dépendantes? L'addiction, concept culturellement construit, n'est-elle qu'un outil de discrimination et d'exclusion parmi d'autres? Les invités de ce débat étaient des professionnels d'associations de prévention locale. Addiction France et l'AIPD XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, le CAARUD, le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers et usagères de drogue, le CIGC, Consultation Jeunes Consommateurs, étaient également présents. Fabrice Olivet, auteur et militant historique de la réforme des politiques de drogue, il dirige l'association ASUD depuis 1996. Enfin, Margot, militante à Technoplus, une association qui promeut les stratégies individuelles ou collectives de réduction des risques liés aux pratiques festives et qui favorise l'épanouissement de la culture techno.
Comme vous le voyez, on a fait le choix d'avoir un panel d'intervenants avec des horizons divers qui n'ont pas forcément non plus la même approche sur les différents concepts. Il y a des mots qui ont été utilisés là, par les différents intervenants. Juste pour dire que nous, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de lever les tabous, pouvoir parler de tout. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, l'association Technoplus avait affiché dans les toilettes des flyers. Et ces flyers, ont disparu, ont été retirés. Ce qui veut dire que même, y compris nous, au sein de Résistance, ça crée une inquiétude. Et vraiment, c'est de ça qu'on a envie de pouvoir parler. Juste redire quelques mots qui ont été cités là, par les intervenants. Et après, on vous donne la parole pour pouvoir déjà réagir sur ces mots qu'on entend et qu'on utilise. Qui sont pas forcément définis de la même façon par tous. Donc, il y avait addiction, dépendance, usagère, toxicomane, consommation, alors récréative, festive, thérapeutique, pathologique, réduction des risques, santé communautaire. Margot a commencé à un peu expliquer, mais peut-être vous aurez envie d'en savoir plus aussi là-dessus. En tout cas, ils ont un peu parlé de ces mots-là, et là, on a envie déjà de vous donner la parole pour savoir si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Les premières questions. Ou pas, et puis on poursuit, mais on prend le temps. Là, devant.
Bonsoir à toutes et tous. Est-ce qu'il y a un stand Technoplus au festival? Oui. Alors, je me disais par rapport aux petits flyers, peut-être c'est les gens qui ont eu peur, qui ont enlevé les flyers des toilettes, mais peut-être aussi c'est les gens qui ont voulu prendre les flyers pour d'autres parce qu'ils pensaient que c'était important. Voilà, c'est juste une dimension comme ça. Et je pense que ça va être chouette aussi d'avoir quelques flyers.
Alors, il y en a plein en pôle Bonne Ambiance et il y en a au stand qu'a occupé Addiction France. Effectivement.
Juste pour répondre à ta question, moi j'étais pas là hier, mais j'ai cru comprendre ce matin que les flyers auraient été arrachés parce qu'il y avait aussi des enfants au festival et que c'était pas nécessaire qu'ils puissent lire ces flyers-là et que c'est pour ça qu'on les peut conditionner, hein, qu'on les aurait arrachés des toilettes. Voilà, c'est juste pour répondre à ta question. C'est le retour que j'ai eu.
Mais alors, t'es complice.
Mais si vous en cherchez, il y en aura sur le stand encore après le débat.
Pour préciser, avant que Camille et que Margot apportent des vrais beaux flyers colorés et tout, le pôle Bonne Ambiance avait pris l'initiative d'en coller dans les toilettes et d'en imprimer quelques-uns. Et voilà, ça a suscité des questions. Et on se demande ce que vous en pensez. Parce que... Est-ce que la formation est à la santé ou pas?
En fait, je crois que c'est flyer.
Judith, si j'ai bien compris, ces flyers ont déjà quand même engendré un procès contre Technopus. Voilà, donc vous devez quand même commencer à avoir l'habitude d'être arraché, d'être déchiré et d'être accusé de tous les maux.
MLX.
Ça marche,
non, ça marche. Il va, désolé. Oui, effectivement, l'histoire des flyers, donc l'association a été mise en procès dans les années 2000 pour incitation à l'usage de drogue au travers de ces flyers. C'est un procès politique hein, qui a duré 5 ans et l'association a gagné ce procès. Et c'est là qu'a été créée du coup la loi de santé qui protège les personnes qui font de la réduction des risques et qui donnent des infos. Ça c'est une chose. Il faut savoir aussi que nos flyers ils sont distribués dans quasiment tous les carreaux XAPA de France. Ils sont en libre téléchargement sur notre site internet et on compte plus les milliers de téléchargements qu'on a par an. Donc voilà, ils posent question et ils réveillent des choses chez les gens, mais ils sont aussi super plébiscités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont écrits par des personnes qui consomment et qui ont des expériences de consommation. Et quand on écrit ces flyers-là, on mélange en fait le savoir scientifique et aussi le savoir profond en fait des usagers. Voilà, petite histoire de couleur, si vous avez des questions.
Bonsoir. Je voulais réagir parce qu'il a été question de la diversité des personnes invitées pour le débat et je me demandais, comme vous avez brisé le tabou de l'addiction au numérique par ce petit film, est-ce que vous n'avez trouvé personne voilà, pour intervenir sur ce sujet ou est-ce que, enfin, voilà, en tout cas, c'est un tabou, ça concerne tout le monde et voilà, donc c'est juste une question parce qu'il existe voilà, de plus, enfin, il existe plusieurs collectifs Cause, Lève les yeux, Colline, le collectif contre l'invasion numérique de l'école, Écran total, enfin, voilà, il y a de nombreux qui interviennent notamment sur la question aussi de l'addiction.
Alors, en termes de choix d'intervenants, je ne peux pas répondre forcément. Après, les XAPA accueillent tout individu et pour toute addiction, que ce soit des produits ou pas produits, dont les écrans. Donc en fait, on peut venir, si on a une addiction aux écrans, on a un proche qui a une addiction aux écrans, on est tout à fait en capacité de recevoir ces personnes-là aussi.
Non, mais je pense que justement, c'est peut-être simplement poser le débat dont on avait parlé tout à l'heure, là, c'est-à-dire que ce concept d'addiction, qui est effectivement scientifiquement très intéressant, puisque il provient de la recherche scientifique qui a mis en évidence les mécanismes du cerveau qui sont les mêmes pour tout type de dépendance, qu'elle soit licite ou publicite, et même éventuellement sans produit comme le jeu. On a vu tout à l'heure un documentaire sur les questions de sexualité. Alors, le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes traitées de la même façon du point de vue légal et du point de vue moral. J'y pensais d'ailleurs par rapport à la question de la sexualité. Ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de dépendance. Il y a effectivement des dépendants, il y a des gens qui sont dépendants aux relations sexuelles. et au point que ça a fini par leur bousiller leur vie, mais il viendrait à l'idée de personne de stigmatiser des relations sexuelles tout court. Bah, ça existait au 19e siècle, voilà, avec l'Église catholique triomphante. Enfin, normalement, on est un tout petit peu sorti de ça, et en ce qui concerne les drogues, on est exactement dans cette situation. Les drogues illicites. Donc il y a un problème politique posé par ce caractère illicite, doublé d'un problème moral. Sur la question de l'alcool, c'est très intéressant, parce que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui boivent de manière excessive, finalement, sont considérés comme des gens qui ne sont pas capables de boire de manière festive, et quelque part, il y a un double mépris. Alors qu'en ce qui concerne les drogues, peut-être un peu moins sur le cannabis aujourd'hui, qui finit par se socialiser, mais sur les drogues dites dures, les consommations récréatives sont suspectes, cachées, taboues, et surtout réprimées, et c'est pour ça que moi je m'engage beaucoup sur cette question-là, c'est-à-dire qu'elles servent de vecteur pour cibler les gens qui sont censés les vendre, et les gens qui sont censés les consommer, de manière moindre, mais en tout cas, voilà. Et à mon avis, c'est deux catégories différentes. La question des addictions est une question scientifique et sanitaire, tout à fait légitime, qui concerne 20% des consommateurs, et le reste, la stigmatisation et la loi, concerne 80% des autres, toutes drogues confondues. C'est-à-dire qu'il faut savoir, et ça les scientifiques et l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, le dit, que par exemple, 80% des utilisateurs de crack, et je pèse mes mots, sont des gens qui l'utilisent pour leur plaisir de manière récréative. On appelle ça des basés de la cocaïne. Bon, et quand c'est des noirs et des pauvres, on appelle ça du crack. C'est pareil pour l'héroïne, c'est pareil pour la cocaïne, c'est pareil pour le cannabis, et ça, évidemment, ça paraît plus crédible, puisque je pense que, y compris dans cette salle, bon, les gens qui n'ont pas expérimenté le cannabis sont probablement minoritaires, mais tant qu'on aura cette histoire de loi, on n'aura pas de possibilité d'avancer sur ce sujet.
Peut-être que là, on peut prendre plusieurs questions, et après...
Il y a juste quoi, tu veux dire avant? Juste par rapport à la question sur les associations, comme avec Technoplus, on se sert dans les consultations jeunes consommateurs des documents, de toute l'expertise des personnes qui réfléchissent sur ces questions-là. Après, il y a une différence entre hyperconnectivité et addiction par rapport aux écrans, par rapport à... C'est très très individuel, et nous, quand on reçoit un jeune, la question de l'évaluation, comme pour toute addiction, c'est les retentissements en fait. Est-ce que j'ai les équilibres? Est-ce que j'ai mes déséquilibres? Plus que nommer, tu es addict, tu es dépendant, il faut que tu fasses ceci ou cela. En fait, on regarde tout autour. Moi, dans le travail social, c'est comment ça va à l'amour? Est-ce que je fais la fête ou est-ce que je m'isole complètement? Est-ce que je fais des tests pas mal fait par rapport à ça, je fais vraiment bien. Et on essaie d'évaluer de façon globale plutôt que de rester sur l'addiction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se décentre en fait. Mais on peut orienter sur des structures, sur des supports aussi, on disait dématérialisés, des groupes de parole, des forums, etc. On se sert aussi les professionnels de tout ce qui existe et les associations présentes. Voilà.
Des questions dans la salle?
Oui, en fait, j'avais besoin d'un petit point de vocabulaire. En fait, je crois que vous utilisez de manière similaire les termes dépendance et addiction. L'autrice américaine Maya Salavitz, qui est vraiment spécialisée dans le champ des addictions, son dernier bouquin qui s'appelle Undoing Drugs, c'est l'histoire de la réduction des risques, en fait, qui est hyper intéressant. Et elle, j'aime bien sa définition, et je vais voir ce que vous pensez. Elle fait une différence entre dépendance et addiction. Pour elle, on peut être dépendant de quelque chose, mais tant que ça n'a pas d'impact négatif dans notre vie, en fait, c'est une béquille qui nous aide à fonctionner. Et du coup, elle considère que l'addiction serait quand du coup, cette consommation ou cette habitude en fait, commence à détruire notre vie. Et c'est là qu'elle fait la différence entre les deux. Et je voulais savoir les uns les autres comment vous pensez.
Si Oui, moi je pense que, enfin, en tout cas, sur le, il y a des, certaines définitions du point de vue médical et sanitaire qui définissent en fait un continuum qui finalement n'est pas tellement. En fait les cas ne sont pas si séparés et en fait il y a un continuum entre un usage, éventuellement une dépendance, éventuellement une addiction, et les frontières peuvent être un peu floues aussi entre. C'est ça qui est la complexité, mais voilà. Appuyer un peu ce propos.
Sur ce point-là, dépendance et addiction, je vous rejoins, je suis pas en désaccord avec ça. Il y a un exemple que je prends souvent sur une dépendance qui pourrait s'adresser à tout le monde ici. C'est ma grand-mère qui a 80 ans, indépendante de ses somnifères. Si elle ne répond pas, effectivement, au bout de quelques jours, ça va commencer à se voir, à se ressentir. Donc, ça, voilà. Donc effectivement, elle est dépendante. Ceci étant, son somnifère, il est bien dosé. Elle le prend à la bonne heure. Il réévalue régulièrement. Elle n'a pas d'effet secondaire, elle n'est pas vaseuse, elle n'a pas de perte d'équilibre. Voilà. Et effectivement, il y a peut-être une dépendance, mais qui, à ce niveau-là, n'est pas toxique ni pour son organisme. Enfin, là, je ne suis pas médecin, mais voilà. Mais en tout cas, pour sa vie sociale, etc., il n'y a pas d'impact négatif. Et donc, c'est un peu un exemple que je prends pour dire qu'on peut être dépendant à quelque chose, ça peut nous servir, effectivement, sans forcément être dans une addiction avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va appuyer plus quand on va parler d'addiction.
C'est moi. Dans le combat de certains d'entre vous pour la dépénalisation, il y a peu d'années, il y a un parti politique qui avait dans son programme de dépénaliser l'usage du cannabis. Est-ce que vous seriez pour dépénaliser l'usage de toutes les drogues?
Moi, je vais continuer sur la dépendance, mais je peux tout de suite vous répondre en ce qui concerne la suite. On a toujours milité pour la dépénalisation de toutes les drogues et la légalisation de certaines selon des modalités spécifiques. Et en plus, cette politique, c'est celle qui est menée dans beaucoup de pays développés à l'heure actuelle, à commencer par les États-Unis, qui sont les inventeurs du concept de guerre à la drogue, qui sont en train de revenir complètement là-dessus, puisqu'il y a je crois 25 États américains qui ont légalisé le cannabis sous une forme thérapeutique et 5, à ma connaissance, qui ont légalisé le cannabis pour des raisons récréatives. C'est le cas du Canada aussi. Et là, dernièrement en Europe, les Allemands, au mois d'avril, ont légalisé le cannabis pour des raisons récréatives. Pour revenir à l'histoire de l'usage, moi j'ai parlé de la dépendance parce que la réduction des risques, elle a permis d'amener ces informations un peu objectivées sur le fait qu'il y a des usages, des abus et des dépendances. Des choses qui viennent de l'alcool, qui venaient de l'observation de la consommation d'alcool. Encore une fois, on s'appuie sur le fait que la grande majorité des consommateurs d'alcool ne sont pas dépendants. Après, ils ont objectivé aussi la nature des produits, parce que quand on parle de la drogue, ça n'a aucun sens. En fait, il y a un certain nombre de produits, des produits qui ont une dépendance physique, et le plus connu, c'est l'héroïne, mais c'est aussi le cas de l'alcool, qui quand on est dépendant, produit une dépendance physique extrêmement forte. Par contre, il y a d'autres produits comme la cocaïne, c'est peu connu, qui ne provoquent pas de dépendance physique. Par contre, avec une dépendance psychologique, tout ça, ça permet d'amener des informations et des outils qu'on peut objectiver, on sort du fantasme. Et c'est ça la réduction des risques, en fait. C'est pouvoir donner des informations à des personnes qui consomment en partant du principe que cette consommation est presque un principe universel, presque un schéma civilisationnel. Souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est presque une définition de l'humanité, parce qu'on sait que dès que au néolithique, dès que les groupes humains se sont réunis quelque part, ils ont commencé à faire fermenter des produits parce que l'expérience psychotrope est un fait civilisationnel. Bon, alors évidemment, quand on dit ça aujourd'hui, on passe pour un provocateur, voire un incitateur, ce qui est puni par la loi.
Merci d'être là. La question elle est assez simple, c'est apparemment vous représentez deux démarches assez différentes, celle sur la réduction des risques dont on vient de parler, et celle du soin, où il me semble que la personne concernée face à ces deux problématiques se trouve, on trouve deux personnes différentes. Donc je voudrais savoir un peu les uns et les autres comment, je sais pas comment vous voyez ça. C'est de faire un peu de
coup. Moi, je veux pas briser la parole, hein, mais parce que c'est tout à fait vrai, c'est très très pertinent comme question. Mais je pense que ça devrait lancer le débat.
Je ne sais pas si je vais répondre à toute la question, mais bah, ça fait 2 ans que je suis encore là. Je suis encore un peu déchiré. Mais je crois que la première chose que, alors pas que j'ai appris, mais que j'ai compris en arrivant, c'était la différence effectivement entre les centres de soins, mes collègues et les partenaires d'Addiction France, et d'autres structures, comme le CARU, mais comme aussi d'autres services, qui vont être peut-être plus sur une dimension sanitaire, avec du prendre soin plus que du soin. Où il n'y a pas forcément la démarche d'aller vers le soin. Parce que ça leur appartient, il faut garder en tête que c'est quelque chose qui leur appartient. On n'est pas là pour inciter les gens à aller vers le soin. Personnellement, moi, enfin, professionnellement, en tout cas, si je le fais, les gens, je les perds, il faut que je prenne ce risque-là. Donc je crois qu'en tout cas, dans la réduction des risques, il y a surtout cette dimension sanitaire sur le prendre soin des consommations. Et après, libre à chacun. Libre à chacun, de toute façon, effectivement, de nous en a qui nous demandent, qui nous font part de leurs difficultés, qui nous disent qu'ils aimeraient se rendre vers le soin. Il n'y a pas de problème. À un moment, on va être confronté à certaines limites, nous, dans nos missions en tant que professionnels de l'hôpital. On n'a aucun souci à orienter vers les collègues, vers les partenaires de soins, les hôpitaux, les associations, n'importe quelle institution médico-sociale qui va être en capacité de pouvoir les accompagner et les prendre en charge. Mais garder à l'esprit qu'il faut que ça vienne d'eux.
Et du coup, je pourrais peut-être compléter. C'est vrai que ben, nous, dans les espaces festifs dans lesquels on est, on voit énormément de gens qui ont des pratiques récréatives, qui sont insérés dans la société, qui travaillent, où la consommation ne vient pas forcément être un problème dans leur vie. Et du coup, qui se servent de la réduction des risques donc, pour mettre en place des stratégies pour que ça se passe bien, que ça se passe au mieux, qu'il n'y ait pas d'impact sur leur santé, et qui ne nécessitent pas forcément de soins ou d'accompagnement plus importants. Et quand les personnes vont formuler ces demandes-là, ben nous, on va les orienter vers des structures spécialisées, mais c'est pas du tout la majorité, en fait. La plupart des gens veulent juste une information objective, savoir quel va être l'effet d'un produit, combien de temps ça va durer, quels sont les risques pour faire, en fait, ces choix éclairants en fonction des informations qu'on va leur apporter.
Non, mais je disais que c'était une excellente question parce qu'en fait, ce que vous évoquez, ça explique toute l'histoire de la réduction des risques. Avant la réduction des risques, on avait le principe de toxicomanie. Le vocabulaire qui était utilisé, c'était le concept d'une toxicomanie qui était en soi une maladie, donc qui nécessitait nécessairement un soin. D'ailleurs, le fait de consommer une drogue illicite, par définition, supposait qu'on devait être pris en charge. Bon. Et le soin en question ne se définissait que par l'abstinence. Et éventuellement la prescription, ben, s'appelant du psychotrope de type médicamenteux. La réduction des risques, elle part d'un principe complètement différent que la consommation de drogue n'est pas nécessairement une pathologie, voire même qu'elle peut accompagner le flyer de Technoplus qui participe au confort de l'usager. En fait, les gens avaient raison de nous attaquer. Hein. Vous avez gagné, tant mieux, mais enfin, je pense qu'un certain nombre de juristes auraient pu vous condamner parce que au centre, c'est pour ça qu'on a fait la loi de 2004 après, parce que au sens premier du code pénal, la réduction des risques qui consiste à ne pas juger, voire à donner des outils qui permettent de continuer son usage, devrait tomber sur ce qu'on appelle la présentation sous un jour favorable. Hein, c'est un article du code de la loi 70, pour lequel, par exemple, des gens qui portent une feuille de cannabis sur leur t-shirt peuvent être condamnés. Bon, le journal d'Assud qu'on a créé, il peut être condamné à toutes les pages. Hein. Parce qu'on a fait, par exemple, sur un numéro 50, on avait dit, on a testé 50 produits pour vous, pour vous expliquer comment il faut les consommer dans l'horizon. Il y a eu une campagne de presse dans Valeurs Actuelles qui, à l'époque, était un petit journal peu connu. Et donc voilà, et ils voulaient nous retirer nos subventions, on les a toujours gardées à l'époque. Enfin voilà, tout ça pour expliquer que l'art actuel, c'est pas du soin. Et effectivement, le soin, normalement, concerne les gens qui sont objectivement malades. Alors là où il y a une nuance, c'est que pour les opioïdes, pour les gens qui sont accros aux opiacés, l'héroïne, la grande drogue des années 80, on a mis en place des traitements de substitution, qui sont finalement une manière de fournir de la drogue, il faut être très clair. La méthadone, c'est une drogue dure. Le Subutex, c'est un opioïde. Donc, on a mis en place ces traitements en pleine épidémie de sida, on en a parlé hier, qui ont permis de réguler un certain nombre de notamment les pathologies liées à l'injection, mais aussi permis à toute une génération de se resocialiser parce qu'ils avaient accès légal à un produit qui, de coup, devenait licite. Alors, c'est un opioïde. Et cette prescription, elle appartient à ce qu'on appelle le soin. Parce qu'il faut être un médecin pour prescrire ces opioïdes. Mais formellement, voilà, on pourrait aussi dire que c'est une forme de réductionnisme. Donc tout ce que je veux dire, c'est que on est dans une zone grise. Tant qu'on n'a pas changé la loi, on est dans une zone grise. Et cette question de parler de soins quand on parle d'outils donnés aux usagers de drogue, elle est sur cette zone grise, parce qu'on n'arrive pas à ouvrir les valves clairement et à dire, comme pour les produits illicites, ce qu'il faut, c'est encourager les gens à consommer, enfin, les aider à consommer sans les encourager.
Il y a une question aussi. Là, je voudrais dire que je cautionne complètement toutes vos actions et je suis impressionnée. J'ai découvert ce qui se passait dans les deux parties, etc. et tout l'accompagnement qui a été fait. Maintenant, je veux dire qu'il y a une phrase que vous avez dit qui m'a énormément choquée tout à l'heure, ou bien on est isolé ou on fait la fête. Et ça, moi je suis entourée par plein de gens qui font plein de fêtes, qui sont dans des peintures à gaz, etc., qui ne boivent pas d'alcool, qui ne consomment pas besoin de consommer, etc. Et je pense que ce propos-là fait partie aussi de la prévention peut-être auprès des jeunes, des adolescents, de dire qu'on peut s'amuser en faisant ça, en préparant des boissons gingembre, etc., mais sans passer par tous ces produits. Je me rappelle mon grand-père qui faisait 14, quand je prenais une nouvelle à café, je refusais, j'avais 16 ans, je refusais l'agneau, il me disait tu bois un café de femme veuve. J'espère qu'on est passé à notre époque. Voilà. Et voilà ce que j'ai ressenti, qu'il faut vraiment accompagner les jeunes à ne pas rentrer là-dedans, parce qu'on peut s'amuser sans alcool et sans drogue. C'est pour ça que cette phrase m'a beaucoup choquée.
Oui, c'est une réalité qu'on peut s'amuser sans drogue et sans alcool. Et d'ailleurs, dans les rêves parties, il y a des gens qui ne consomment pas des drogues et de l'alcool. C'est propre à chacun. En tout cas, on a une position non jugeante et informative pour les gens qui font le choix de consommer ou qui consomment déjà. Et on n'est pas du tout dans l'incitation à consommer ou avoir des consommations pour des personnes qui ne consomment pas. Pourtant, ces personnes qui ne consomment pas viennent aussi s'informer au stand, lire les flyers, comprendre les effets des drogues. Même moi, au sein de l'association, je ne les ai pas toutes essayées. Et pourtant, grâce aux flyers et grâce à l'information, ça me permet de les connaître et de donner de l'info. Et je ne suis pas obligée d'être consommatrice de toutes les drogues pour pouvoir informer dessus. Et il faut savoir qu'actuellement, dans les milieux jeunes et les jeunes qui organisent les fêtes, il y a de plus en plus de fêtes qui sont sans produits et surtout sans alcool, voire même des festivals qui sont sans alcool en soutien au peuple qui sont comme les Kanaks ou d'autres qui sont vraiment détruits par la question d'alcool. Donc c'est une question aussi de l'abstinence, de la non-consommation, de la fête sans substance qui existe, mais on ne veut pas non plus stigmatiser les personnes qui ont des consommations, que chacun ait sa place et que chacun puisse être libre de faire ce qu'il veut, et ça en toute sécurité et en toute connaissance de cause.
J'ai une question. Est-ce que le concept, par exemple, des alcooliques anonymes, que si on est vraiment dans une addiction, le seul moyen c'est le silence. Est-ce que personne parmi les intervenants venant croit à ce système? Parce que j'ai l'impression, j'entends, on peut contrôler, on peut faire préventif, et ça touche pas la question des libertés, non? Juste, si une personne se considère vraiment addict, est-ce que vous pensiez qu'il y a d'autres moyens que l'abstinence?
Ça va dépendre des personnes. Il y en a certaines qui vont devoir passer par une période abstinente et qui, au bout d'un certain temps, vont pouvoir recommencer à avoir des usages de manière récréative, d'autres pas du tout. Donc, c'est pas forcément obligatoire. Mais moi, je connais des gens qui ne sont pas passés par la case abstinence, qui étaient dans des consommations problématiques et qui, par d'autres voies, sont passés sur des consommations récréatives. Et donc, ça passe pas forcément par la question de l'abstinence, mais la question de l'abstinence, elle existe, on en parle aussi. C'est aussi une stratégie de réduction des risques pour réduire les risques de choisir à un instant T de s'abstenir et de ne pas consommer. Mais je pense qu'on peut aussi faire sans, ou faire autrement, et en travaillant sur ses comportements, pourquoi, etc.
Et peut-être que j'ajoute un point, c'est que il y a beaucoup cette question de l'abstinence, et c'était un peu la seule façon de prendre en charge les personnes qui avaient des addictions. Et donc c'est peut-être, ça paraît aussi moins important de présenter qu'en fait non, c'est pas la seule façon, et aussi de laisser vraiment le libre choix à la personne, parce que c'est enfermant cette injonction à l'abstinence, et qu'elle est encore véhiculée et qu'elle est encore portée, je pense, dans beaucoup d'imaginaires, que c'est la seule façon de s'en sortir, et du coup c'est enfermant dans les moyens de se soigner ou de faire son chemin, quoi, et de recentrer sur, en fait, c'est la liberté de la personne, et chaque individu prendra la voie qu'il lui faudra, ou en tout cas fera le chemin qu'il doit donner.
Et puis peut-être pour se reculer un peu de la question du produit et de la substance, je pense par exemple aux écrans, qui aujourd'hui peut être abstinent total d'écran. Donc forcément, ça passe par autre chose que l'abstinence, ça passe par réapprendre à faire autrement, etc.
Après, l'un n'est pas... c'est comme la réduction des risques et le soin. L'un n'est pas à l'encontre de l'autre, en fait. J'ai un exemple, je me suis glissée cet après-midi pour recevoir quelqu'un qui bosse. Je ne l'avais pas vu depuis un an. On s'était plus revu. Je me dis, on va repartir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui a causé pendant, qui avait fait une cure en hospitalier, qui allait mieux. Il me dit, j'allais mieux, j'ai pas eu besoin de vous. Bon, ok. Et puis, je suis allée moins bien, j'ai remis mes papiers de cure, etc. Aujourd'hui, je gère. Donc, on a abordé, vous en êtes, où on va. On n'accompagne pas. On est dans une société judéo-chrétienne, c'est bien, c'est mal le consommateur abstinent. On accompagne un parcours. Il me dit, j'aimerais gérer ma conso, parce que je retravaille, tout ça, ça va, etc. J'aimerais voir le médecin pour discuter du possible. Et on est reparti sur ça. Et on ne sait pas dans 6 mois, dans 1 an. Mais du coup, on accompagne ce parcours-là avec des périodes de sevrage, des périodes de consommation, et toujours ces questions d'équilibre et de soutien.
J'avais une question par rapport au fait que dans certains pays, les choses avancent par rapport à la légalisation ou à la dépénalisation, c'est pas tout à fait la différence pour moi. Je me demandais qu'est-ce qui fait qu'en France, en fait, ça n'avance pas, ou ça avance très lentement. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'il faudrait qu'on ait permis des choses?
Je
n'ai
pas. Non, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est de plus en plus flagrant, par contre. Il y a une crispation française à rebours de la plupart. Bon, tu prends les pays européens, par exemple, les pays européens de l'Ouest, ont tous au moins décriminalisé, sauf la Suède. Mais décriminalisé, ça suppose que le consommateur n'est plus pénalisé. Ça ne veut pas dire légalisé. En termes de légalisation, Bien que, à ma connaissance, l'Espagne, la Hollande qui a une tolérance, donc ça veut dire qu'on a accès aux produits, la légalisation c'est l'accès aux produits, on peut être d'accord là-dessus, et la, donc dernièrement l'Allemagne qui permet aux gens de pouvoir, non seulement ils ne sont pas sanctionnés quand ils consomment, mais en plus ils peuvent légalement avoir accès aux produits. Moi, ma théorie personnelle, c'est que la France est prise dans un truc particulier lié à l'hystérie qu'il y a sur les scènes de deal. Parce que c'est un argument, bon, j'ai parlé de ça tout à l'heure, essentiel pour condamner certaines zones, certaines populations, et qu'on voit bien, on sans ouvrir un débat tabou, qu'il y a une crispation identitaire en France, et que ce phénomène a été démontré aux États-Unis, j'en parlais hier, de manière, pour le coup, tout à fait quasi officielle, c'est-à-dire que la guerre à la drogue a été utilisée pour stigmatiser la communauté africaine-américaine. Je pense que les difficultés qu'on a à avancer du point de vue de la loi en France sont liées à ça, d'autant qu'on a un système de réduction des risques qui est ancien et relativement bien développé. Faut savoir que les services de réduction des risques et de soins en France sont assez performants par rapport à ce qui pouvait être aux États-Unis. Donc moi, c'est mon hypothèse, c'est ça, c'est que c'est un outil au service de la répression de certaines populations que les pouvoirs répressifs ne veulent pas lâcher.
Bonjour. Justement, par rapport à cette utilisation politique de la drogue pour la répression, on voit bien que la drogue, c'est un enjeu politique. Et dans un autre sens, est-ce que les associations, les gens qui réfléchissent à tout ça, enfin vous, vos groupes, réfléchissez aussi sur l'impact politique de la production de la drogue. Il y a beaucoup de drogues qui sont produites dans des pays lointains, dans des conditions sociales, dans des conditions environnementales, écologiques, dramatiques. En fait, la drogue, c'est aussi un produit du capitalisme et qui a un impact majeur, comme beaucoup de produits du capitalisme, hein, qui a un impact majeur. Et consommer de la drogue, c'est aussi participer à ce système. Est-ce qu'il y a une réflexion, sur cette situation, impact environnemental, impact social, sans jugement jugement moral sur la consommation de drogue, hein, mais simplement, on est des gens dans un festival de résistance qui s'intéresse à l'impact qu'on peut avoir sur le monde dans nos pratiques. Et la pratique de la consommation de drogue peut avoir un impact sur le monde.
Et c'est une question très bonne et très importante. Hein. Moi qui me touche particulièrement, je suis issue de la solidarité internationale, donc je connais bien ces questions-là. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un outil du capitalisme. Enfin, ça existait avant le capitalisme. Et il y a même des animaux qui consomment ce qu'ils sont là. Voilà, en tout cas, si on milite pour la légalisation et pour que tout ça, justement, se soit encadré, c'est pour aussi que toutes ces dérives et tout, ces traites humaines et toutes ces horreurs écologiques que ça crée soient mieux contrôlés, mieux régulés, etc. Magnétique. C'est un rêve pour plein d'usagers, beaucoup de gens se questionnent sur ça. Il y a des gens qui arrêtent aussi de consommer pour ces questions-là, pour certains types de produits ou d'autres qui vont produire leur propre drogue eux-mêmes, justement pour ne pas avoir d'impact de ce type. Donc c'est vraiment des réflexions qui existent au sein des communautés de gens qui consomment des drogues. Et c'est pas une question anodine, je pense, et elle est très importante et il faut en parler. Et pour moi, ça fait aussi partie de la réduction des risques. En tout cas, quand nous, à Technopus, on en discute avec les gens, on discute aussi de ces questions-là. D'où vient ce que je consomme, comment c'est produit, et que les personnes puissent faire le choix de consommer ou de ne pas consommer en toute connaissance de cause. Pas que de l'impact sur leur santé, mais aussi de l'impact sur la planète, sur les autres êtres humains. Ça fait pour moi aussi partie de la réduction des risques.
Alors, je suis complètement d'accord, c'est une très bonne question, et en plus ça remet le débat sur la question de la demande. Et en fait, c'est crucial, on en a aussi parlé hier, c'est que la prohibition met dans la tête de tout le monde que la question de la drogue, c'est une question d'offre. Donc que ce serait une question liée à des... Alors il y a l'image du méchant killer qui vient distribuer de la drogue à la sortie des écoles, mais ça peut être des pays aussi. Et donc les narco-états, etc. Or, s'il y a des narco-états, c'est parce que d'abord il y a une demande, et qui est principalement une demande occidentale de pays riches. Et c'est vrai aussi en termes national, c'est-à-dire que les gens qui ont le moins de problèmes pour consommer, y compris le moins de problèmes sanitaires, sont très souvent des gens qui sont les gens inclus de centre-ville, plutôt blancs, et du coup qui font peser cette demande sur une offre qui vient des quartiers périphériques, qui eux prennent tous les risques, y compris la stigmatisation. Alors le problème, c'est que cet argument, il a été utilisé aussi par Gérald Darmanin. Donc il faut quand même savoir. Et voilà, à la fois c'est une question pertinente, et à la fois c'est hyper sensible, parce que ça peut être complètement retourné. Gérard Darmanin, du coup, dit « Ah, mais regardez, quand vous êtes des... Dès que vous fumez votre herbe le soir, vous tuez des enfants dans les banlieues. » C'est ce qu'il dit. Hein. Sans du tout remettre en cause le fait que c'est un système injuste, prohibitionniste, qui crée cette situation de guerre de gangs dans les banlieues, au bénéfice d'une classe moyenne, alors que la légalisation, ou en tout cas ce que tu dis, l'autoproduction par exemple, qui est une solution, le cannabis club, les cannabis social club, qui sont des clubs de partage coopératif, remédierait à cette situation, en tout cas en permettrait d'éviter qu'on stigmatise toujours l'offre des dealers, les méchants dealers, les narcos. Je ne sais pas si on a répondu.
En fait, moi j'avais la même question, c'était pas celle de Darmanin, mais c'était en fait plus en rapport d'un point de vue économique en fait, parce que ça représente vraiment une économie très importante. Et donc, est-ce que aussi la question de la légalisation en France, elle n'est pas liée au fait qu'ils ne maîtrisent pas tout? Alors je dis ça peut-être d'une manière un peu biaisée, parce que j'ai entendu que par rapport à... au cannabis thérapeutique, ça allait être légalisé, ça allait être autorisé, je ne sais pas comment on dit, à partir de janvier 2025, mais à 6 mois d'un
moment. Oui, oui, non, vous l'avez entendu.
Et par contre, que ça n'allait pas être utilisé parce qu'il y a une différence entre la loi et ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire la délivrance par les médecins de ce type de machin, là, et d'autre part, parce que il disait que la France n'était pas prête, parce que en fait, il n'y a pas de cannabis aujourd'hui, c'est très difficile de maîtriser c'est une question, ce que je vous envoie.
Il y a une expérimentation de cannabis thérapeutique, effectivement. Ça, c'est pour la deuxième partie de votre question, qui est menée, mais là, qui a été complètement mise sous le boisseau et qui soulève des grosses réticences au niveau de l'ancien pouvoir, comme maintenant on est dans le foutoir, et qui restreint à des pathologies extrêmement dures, invasives, tout ce qui est sclérose en plaques. Neuropathie extrêmement grave, fin de vie, enfin voilà. Donc c'est, de toute façon, le projet a été extrêmement encadré et ne correspondrait pas à la réponse que la grande majorité des gens qui consomment du cannabis et du thérapeutique recherchent. C'est que plein de gens fument du cannabis tout simplement pour dormir, pour mieux dormir, contre la douleur, enfin voilà. Et quand aux États-Unis, c'est vraiment des prescriptions de masse. Après, sur l'aspect capitaliste, mais c'est non seulement c'est vrai, mais c'est une des ressources du système capitaliste la plus puissante. Il y a des gens qui disent que la crise économique de 2007 a été sauvée par des capitaux qui venaient du trafic. Il faut voir que ce trafic, il est injecté forcément dans l'économie légale. Donc, toutes les... Comment les entreprises de blanchiment font que, évidemment, ce qu'on est en train de dénoncer là, c'est encore une fois une condamnation des gens les plus pauvres des gens les plus faibles, des gens les plus vulnérables, au nom de la lutte contre la drogue. Mais dès que le marché s'en mêle, et d'ailleurs il faut être très honnête, je pense que si les États-Unis par exemple changent leur optique, c'est pour des raisons capitalistes. Parce que les États qui ont légalisé les premiers, on s'est rendu compte que, par exemple, ça profitait plutôt aux populations blanches aisées, qui se faisaient des fortunes, et que les Noirs et les Latinos continuaient à être pourchassés par la police parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le marché légal, qui était hors de portée pour eux. Donc ça, c'est juste pour répondre, et encore une fois, les initiatives qui peuvent être prises d'autoproduction et de vouloir biaiser cet aspect capitalistique du problème sont tout à fait bienvenus. Mais voilà, c'est la légalisation, c'est aussi une entreprise capitaliste.
Je me fais mettre du temps, je voulais juste préciser à l'Assemblée qu'il nous reste 30 minutes.
Je voudrais revenir sur cette question du cannabis thérapeutique aussi, parce qu'effectivement, ça fait déjà bien longtemps que certains produits, je connais un nom qui s'appelle Satifex, qui existe, en tout cas, je ne sais plus s'il est encore délivré. Mais en fait, il y a aussi l'officieux et l'officiel. Alors, je trouve que la France, c'est un avis complètement personnel et experte de ce genre d'avancée qui n'avance en rien, en fait. Évidemment, il ne rien donner, ce nouveau texte de loi. Mais n'empêche qu'en off, je suis couvert quand même d'un médecin, mais je l'ai vu à plusieurs reprises, voilà. Dans ma vie privée, entre autres, il y a quand même beaucoup de médecins qui suggèrent l'utilisation du CBD, donc cannabis légal en France, à beaucoup de patients. Disons, tu vas au coin de la rue, tu vas chercher du lit, si tu es fumeur, tu fumes avec un vaporisateur, j'en passe des meilleurs, mais c'est quand même quelque chose qui se répand de plus en plus. Et si on est sur l'aspect légal des choses, qui est aussi très hypocrite en soi, puisqu'on a autorisé l'ouverture de magasins de CBD, on a des médecins qui, un peu en off, disent « allez-y, ça peut vous faire du bien ». Et au lieu de tout ça, on a quand même une loi qui fait que si demain je consomme du CBD quotidiennement pour des raisons thérapeutiques, je suis susceptible de perdre mon permis. Voilà. Et oui, puisque il faut savoir que dans le CBD, donc légal en France, pour qu'il soit légal, il faut qu'il y ait moins de 0,3%, on va dire, de THC dedans. Ce qui veut dire que si j'en consomme quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, j'ai un taux de THC qui est constant dans ma salive. Et donc, effectivement, j'ai beau consommer quelque chose de légal, j'ai beau ne plus être des fois sous les effets, d'ailleurs, du cannabis, hein, qui n'est pas du CBD, qui ne va pas défoncer comme on peut l'imaginer avec d'autres drogues, je suis quand même susceptible d'être hors la loi et de tout perdre socialement, on va être très clair.
Ouais. J'ajoute une précision. Actuellement, là, il y a quand même des études, alors certes c'est légal, autorisé, il y a quand même des études qui ont montré que ce qu'on trouve dans le commerce, le CBD là actuellement, c'est pas du tout considéré comme un médicament, donc ça suit pas le même circuit de production que les médicaments, c'est à la place des compléments alimentaires. Donc au niveau de la sécurité ou en tout cas de la surveillance et de l'analyse de ce qu'il y a en finalité dans le produit, c'est pas du tout la même chose qu'un médicament. Et il y a certaines études qui ont montré qu'il y a 40 à 45% des compositions de produits achetés en CBD qui ne sont pas conformes à l'étiquetage officiel sur la boîte qu'on achète. Donc, voilà. Donc, je vais juste cette question. Les autres médecins pensent qu'ils veulent.
Non, mais c'est important de savoir. Je veux dire, il y a plusieurs
positionnements. Et voilà, les médecins font ce qu'ils veulent, ils conseillent ce qu'ils veulent, il y en a qui sont pro, d'autres qui sont pro, voilà. D'autres qui sont plutôt contre, mais c'est quand même une réalité.
En tout cas, c'est ni un médicament, ouais. Ni un produit fiable. Après, l'information peut être donnée, de l'avis de donner l'information, et ensuite les personnes font ce qu'elles veulent. Mais voilà, il y a aussi cette histoire du 0,3%. Qui peut s'avérer ne finalement pas être du 0,3%, même si on consomme du CBD de manière occasionnelle, en pensant ne pas retrouver des traces de CBD dans les contrôles. Quoi.
Oui, bonsoir. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il vous plaît, sur les, sur l'addiction ou les addictions au numérique? Est-ce que vous pourriez nous apporter vos lumières là-dessus, puisque ça me semble un sujet particulièrement fuyant. Alors, je réfléchissais pour, sur trois exemples rapides. Par exemple, ça a été souligné, on est tous dépendants maintenant au numérique. Si on est né il y a moins de 50 ans, on va dire, on est tous dépendants au numérique. À partir de quel moment on bascule sur l'addiction? Est-ce que c'est quand le cerveau commence à sécréter certaines hormones, voilà, est-ce que c'est le scrolling, est-ce que c'est des choses comme ça, à définir la frontière entre les deux. Après, sur la façon dont on en parle, j'ai l'impression que souvent ça se mélange, ça c'est le deuxième aspect avec les dangers du numérique. Ce qu'on apprend aux enfants maintenant au collège, là, les arnaques sur Internet, les faux profils, donc c'est les mails, c'est Facebook et c'est les SMS, donc c'est quand même des choses très très variées. Et on n'est ni dans une dépendance ni dans une addiction, donc bon, quand même. Et il me semble que peut-être le troisième point, c'est le plus important, ça a été démontré par les courts-métrages, c'est que en fait, derrière certains usages du numérique, il y a un vrai problème individuel, peut-être une pathologie sur l'aspect de Laurence, là, clairement, il me semble que c'est plus de la dépendance affective le problème. Que sexuel, et l'écran, le téléphone est juste un instrument pour essayer de trouver satisfaction, de gérer ce problème-là. Et sur l'autre court-métrage, Best Friend, c'est pareil, le problème c'est pas l'écran, c'est pas les écrans, le téléphone, c'est l'extrême isolement social. Donc je pense qu'il y aura aussi d'autres angles d'attaque qui montreraient que le sujet est fuyant et comment on pourrait l'appréhender aujourd'hui.
Je disais que la question, les trois questions étaient un peu longues, je me suis perdue dans mes propres pensées en essayant de vous répondre. Voilà. Donc je vais essayer de remettre les idées en ordre.
J'étais partie en fait.
Pour tenter en tout cas de répondre sur le côté est-ce que c'est en scrollant ou est-ce que c'est en passant tant d'heures ou tant de... En fait, c'est clair. Dans le processus de l'addiction, il est le même que ce soit sur un produit ou pas, et en fait, ça c'est pas en fonction de... C'est-à-dire que typiquement, je peux scroller 15 minutes par jour, ça fait pas quelqu'un... Enfin, je suis pas forcément addict à le fait de scroller 10 minutes chaque jour. L'addiction, enfin, c'est vraiment ce que ça engendre aussi derrière. Donc, en effet, il faut vraiment différencier les dangers du numérique, comme vous l'avez bien dit, sur les fake news et tout ça, et le côté qui est beaucoup plus de l'ordre de, en tout cas, la santé, et qui là, enfin, à mon sens, c'est pareil pour plein de... Les écrans, oui, mais ça pourrait être la même chose pour le sport, en fait, ou pour la pornographie, ou les jeux d'argent. Vous voyez, on a un focus en ce moment fort sur les écrans et c'est normal, mais ça pourrait être plein d'autres choses en fait.
Et la faculté qu'ont les écrans, surtout sur la question de l'immédiateté. Il y a des choses, on l'a vu avec Laurence, hein, c'est action-réaction. Hein, je le vois avec les très jeunes, hein, j'ai un coup de mou, je suis un peu déprimée, ma mère m'a engueulée, je vais effectivement scroller 15 minutes. Mais c'est tout de suite, c'est immédiat, et on a tous dans la poche en plus. Donc si j'ai envie de faire une rencontre, j'ai Tinder sur mon téléphone, et allons-y, c'est parti, dans un quart d'heure, je peux avoir un rencard, quoi. C'est un peu le cas de Laurence. Donc il y a cette question de la rapidité, de la réponse, et l'immédiateté. Effectivement, je suis d'accord avec Camille, il faut bien faire la distinction entre la relation que j'entretiens avec les écrans, hein, puisque quand on parle d'addiction, on est quand même dans quelque chose qui est mort, enfin, une habitude, non, pas l'habitude, de la relation. Et effectivement, la méconnaissance, l'esprit critique par exemple, comment je cherche sur Internet, est-ce que je connais mes sources, est-ce que je vérifie mes sources, voilà. Il y a des choses qui sont très différentes, qui ne sont pas du champ de l'addicto, qui sont du champ peut-être d'autres associations, d'apprentissage, de l'utilisation des écrans. Et après, il y a des choses qui sont de l'ordre de la relation à l'écran et de ce que ça vient venir jouer chez moi. Et avec cette question de l'immédiateté qui, à mon sens, est très importante sur les écrans.
Et je recentre un peu aussi sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure par rapport à la notion d'addiction, c'est qu'il y a aussi l'apparition des conséquences négatives sur le quotidien, sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur le financier, et cette notion de perte de contrôle, qui est un élément important de bascule peut-être.
Et juste pour compléter, donc j'avais parlé de la perte de contrôle, du coup c'est fait. J'aime bien l'idée de renvoyer aussi le concept d'addiction au ressenti de la personne qu'on a en face de nous. Pour rester sur les écrans, effectivement, peut-être qu'à un moment, sans s'en rendre compte, on a consciemment perdu le contrôle de notre consommation, que ce soit l'écran, le produit, mais je pense que peut-être que l'addiction se déclenche à partir du moment où cette consommation nous met en difficulté. On conscientise le fait que ça nous met en difficulté. Pour l'exemple, il y a deux semaines, sur un festival, j'ai rencontré une femme qui m'expliquait, qui s'est présentée assez rapidement son addiction à l'information. J'étais hyper surpris. J'avoue, c'est pas d'addiction que je traite particulièrement au carmel. Et en fait, c'était vraiment hyper intéressant parce que c'est une telle, parce qu'elle a mis ses mots sur la perte de contrôle et l'impact que ça pouvait avoir sur son quotidien. Et complètement été validée par ses enfants à côté, en disant que sa vie bouffait la vie. Quoi. Je pense que c'est important de garder cette notion et de perte de contrôle, et du fait de conscientiser aussi de l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien.
C'est bon maintenant. J'aurais deux questions très rapides. La première, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, je crois qu'on parlait d'un gène de l'addiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Où on en est par rapport à ça? Et une autre, au niveau des associations, comment vous arrivez à gérer l'anonymat et la protection des données, puisque vous parlez quand même de choses illégales. Et voilà, comment vous n'êtes pas trop embêté en fait par le judiciaire?
Le gène
de l'addiction,
sur le gène de l'addiction, je dirais plutôt que j'ai pas vraiment de gène de l'addiction, et qu'en fait il s'agit plutôt de quelque chose qui est multifactoriel et intriqué avec plein d'éléments, avec le parcours de vie de la personne, avec, oui, peut-être certains éléments génétiques, mais qui sont mélangés avec d'autres choses, avec des facteurs de vulnérabilité, avec des possibles troubles psychiatriques associés ou pas, et que c'est... Voilà. Rapide.
Et au niveau de la confidentialité, et alors, la question c'était...
Est-ce que vous êtes embêté par des enquêtes, vos données, est-ce que vous arrivez à les protéger?
Alors, systématiquement, la personne a le choix de donner son nom, son prénom, du moment qu'elle a la prescription, après c'est notre question, mais quand elle se présente, on connaît parfois que le prénom de la personne, le pseudo, elle est totalement libre. Après les enquêtes, c'est uniquement les enquêtes nationales, Observatoire français des drogues et toxicomanies, OPIDOM, des enquêtes vraiment qui concernent nos structures. On est très vigilant par rapport à comment on aborde les choses, à nos liens au sein de l'équipe et en dehors de l'équipe. On travaille énormément en partenariat avec différents champs et il n'y a aucun échange sans que la personne soit avec nous ou informée ou d'accord ou demandeuse. C'est très clair. Pour ma part, je suis référente de justice et j'interviens en milieu carcéral. Donc, ces questions d'articulation santé-justice, je suis au quotidien. Et il est clair que, totalement clair, que ce qui est dit reste entre nous. Et l'articulation se fait de par les attestations, c'est convenu. Et surtout quand on a des salariés, on est d'autant plus vigilant à ces questions-là et le secret professionnel.